En Provence, pour ceux qui me connaissent pas, et c'est l'église dans laquelle j'ai grandi spirituellement. J'ai rencontré le Seigneur alors que j'étais à Salon de Provence. Je me suis converti. Je suis passé par les eaux du baptême à Salon. J'ai marché avec Dieu. J'ai grandi avec Dieu dans cette église. Comme Emmanuel l'a annoncé aussi, je suis parti donc à l'école biblique à Bordeaux, à l'ITB. Là où Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Et puis, me voilà ici, aujourd'hui, devant vous. Quel parcours extraordinaire. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, jamais j'aurais imaginé vivre tout ça aujourd'hui. C'est vraiment une grâce de Dieu. Amen. Pour ce soir, j'avais à cœur de partager là quelque chose pour revenir. Là, on m'a dit que c'était une réunion d'évangélisation et ce qui est bien, c'est que je ne vous connais pas, donc je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous traversez, pourquoi vous êtes venu, est-ce que c'est la première fois que vous venez ou est-ce que vous êtes là depuis de nombreuses années. Vous le savez, moi je ne le sais pas, donc j'espère que le Seigneur va vous parler en cette soirée, que ce soit peut-être par ce que je vais dire ou même peut-être par son Saint-Esprit. Je prie vraiment qu'il puisse là vous parler ce soir et vous faire du bien. Et là, juste pour introduire ma pensée de ce soir, je ne sais pas, mais des fois dans la vie, on traverse des fois des temps difficiles, des temps où on traverse des épreuves, où on traverse peut-être des interrogations et on peut se sentir seul. On peut se sentir seul, on peut se sentir là incompris des autres. On est là dans notre misère, si je peux dire, face à notre mur et on se sent vraiment seul dans nos difficultés. On se sent là incompris. On se demande, mais comment je vais m'en sortir? Vers qui je vais pouvoir me tourner pour essayer d'avancer, pour essayer d'aller au-delà de mes difficultés. Mais là, ce soir, je ne vais pas vous présenter une méthode, une méthode pour résoudre tous vos problèmes, mais je vais vous parler de celui qui a changé ma vie, de celui qui est capable, je le crois, de vous aider, de vous accompagner, peu importe ce que vous vivez là actuellement. Peut-être qu'aujourd'hui vous traversez des temps difficiles, je crois que Dieu est capable de changer votre vie, que Dieu est capable là de résoudre tous vos problèmes, toutes vos difficultés si vous décidez de marcher avec lui, si vous faites confiance à lui. Il y a dans la Bible un passage qu'on va lire ensemble d'une femme. Alors cette femme, on ne connaît pas son nom, on sait très peu de choses d'elle, mais d'après tout ce qu'on peut lire autour de ce texte, on se rend compte que, en fait, cette femme, elle n'était pas très appréciée de son entourage. Cette femme se sentait certainement seule. Elle était, j'imagine, probablement pas heureuse et elle s'était même peut-être résignée à accepter sa situation, se dire « oui, je suis seule ». Je suis malheureux, je suis seul, mais bien, c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être qu'elle s'y est faite à cette situation, on ne sait pas. En tout cas, le texte ne nous le dit pas, je l'imagine. Et le texte qu'on va lire ensemble se trouve dans Jean 4, à partir du verset 5, on va aller jusqu'au verset 26. Donc une lecture un petit peu longue, accrochez-vous, ça va être un petit peu long. Alors, le chapitre 4, Jean 4, au verset 5. Donc, il arriva, on parle de Jésus. Jésus arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Amen. » Un texte un petit peu long, c'est vrai, mais on va voir un petit peu ensemble donc, cette histoire, cette rencontre que cette femme a faite avec Jésus. Alors que Jésus, donc, il nous est dit qu'il était assis au bord du puits, il y a une femme samaritaine qui est venue pour la puiser de l'eau. Le texte nous dit qu'elle est venue seule pour venir puiser de l'eau. À cette époque, les femmes, elles venaient là en groupe généralement pour aller au puits, pour aller puiser de l'eau. Mais cette femme, elle était venue seule. Elle espérait rencontrer personne. Elle est venue à une heure où elle se dit, ben, il va y avoir personne. Alors je vais pouvoir aller puiser de l'eau. Personne ne pourra me regarder. Personne ne pourra me juger. Personne ne pourra dire des choses sur moi. Mais voilà, elle voulait aller puiser de l'eau pour être là seule afin que personne ne puisse la voir. Et finalement, ben, il y a Jésus qui l'attendait au bord du puits. Jésus qui connaissait toutes choses, il s'était assis parce qu'il savait à l'avance qu'elle allait venir ici. Et donc Jésus, voyant cette femme arriver et la connaissant, il lui dit, mais donne-moi à boire, donne-moi à boire. Et elle est toute surprise, elle lui dit, mais comment toi, juif, tu me demandes à moi, tu me demandes à boire à moi, alors que moi, je suis une femme samaritaine. Pour vous expliquer un petit peu, je fais juste une petite parenthèse. À cette époque, entre les Juifs et les Samaritains, ce n'était pas une grande histoire d'amour. Il y avait là comme des conflits. Et cela doit être de bien avant Jésus. En fait, je ne vais pas tout vous expliquer, c'est un petit peu long, mais voilà, au cours de l'histoire de l'Église, finalement, le peuple d'Israël, donc il s'est divisé plusieurs fois, il a été même déporté. Et donc, il y a une partie du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui s'est retrouvé en Samarie. Et donc, de là, après, il y a eu tout un mélange de cultures, un brassage entre voilà, des Juifs, des non-Juifs, tout ça. Et puis, petit à petit, ces descendants de Samarie, les Samaritains. Et puis, il y a commencé à avoir des tensions entre les Juifs et entre ceux qui descendaient de Samarie parce qu'ils n'avaient pas les mêmes façons de voir, les mêmes façons de penser. Et petit à petit, au cours de l'histoire, il y a eu comme une rivalité, finalement. Et donc, à l'époque de Jésus, il y avait toujours cette hostilité entre le peuple juif et entre les Samaritains. Et c'est pour ça qu'elle était surprise que Jésus lui adresse la parole. Jésus, donc lui qui était juif, elle était là surprise. Mais Jésus, il n'est pas dans cette hostilité de savoir si c'était une juive, si c'était une samaritaine. Dieu ne fait pas de distinction. Peu importe nos origines, peu importe d'où nous venons, peu importe le regard que les gens peuvent porter sur nous, Dieu ne fait aucune distinction. Dieu nous aime tous du même amour. La Bible dit que Dieu est amour. C'est la définition même de Dieu, en fait. Dieu est amour. Il aime chacun d'entre nous, peu importe si nous sommes grands, petits, âgés, plus jeunes, avec des couleurs de peau différentes, peu importe, Dieu nous aime du même amour. Et si peut-être, je ne sais pas votre situation, peut-être vous Vous avez peut-être vécu des persécutions par rapport à vos origines, par rapport à d'où est-ce que vous venez. Eh bien, sachez que Dieu vous aime tel que vous êtes, que Dieu vous aime d'un amour qui dépasse tout. On l'a chanté, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse tout notre entendement. Dieu nous aime, Dieu est amour. Et donc Jésus qui rencontre cette Samaritaine, eh bien, contre toute attente, elle ne savait pas qui était Jésus, mais Jésus la connaissait mieux qu'elle-même, en fait. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et dans le texte, on l'a lu, Jésus va lui poser une question. À un moment, il va lui dire, mais très bien, tu veux boire de l'eau, alors appelle ton mari. Appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. Et là, elle va répondre, mais je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Et Jésus va lui dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison parce que tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas ton mari. Si Jésus lui a posé cette question-là, ce n'est pas pour la condamner ou pour la juger, pour lui dire, voilà, tu vois, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien, tu vis là dans le péché, tu vis dans l'erreur, c'est pas bien. Mais Jésus veut lui faire prendre conscience de sa situation. Il lui dit, si tu veux venir à la source, si tu veux la puiser de l'eau, recevoir l'eau que je veux t'offrir, eh bien, il faut que tu prennes conscience de ton état, il faut que tu prennes conscience de ta situation qui est là irrégulière. Il faut que tu prennes conscience finalement de ton état de péché. Et Dieu agit de la même façon envers nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce dont nous avons peut-être des choses en secret dans nos vies, des choses que les hommes ne savent pas, que personne ne voit, mais Dieu, il connaît toutes choses. Et Dieu, quand il nous appelle au salut, quand il nous appelle à venir à lui, il veut nous faire prendre conscience que nous sommes pécheurs, en fait. Que sans lui, nous ne pouvons rien. Que nous avons cet état de péché qui est en nous-mêmes. C'est quelque chose qui est en nous. Le péché n'est pas... comment expliquer ça ? Le péché est quelque chose qui est dans la nature même de l'homme. Finalement, à notre naissance, l'homme est déjà pécheur. Vous savez, si vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, donc le premier homme et la première femme, il nous est dit qu'Adam a été le premier homme à avoir péché. Et depuis, toute l'humanité, en fait, par génération en génération, ce péché s'est transmis de génération en génération. Finalement, dès que l'on est sur cette terre, on est déjà pécheur. On est déjà pécheur du moment que l'on est. Et si l'on est pécheur, eh bien, la Bible nous dit que on est privé. En fait, on est privé de la gloire de Dieu parce que notre péché nous sépare de Dieu. Dieu est saint et Dieu ne peut pas se s'allier avec avec le péché. Dieu est contre le péché. Et si le péché qui est en nous, finalement, cette nature même, on ne peut s'approcher de Dieu si on n'est pas purifié, si on n'est pas lavé. Ce péché est quelque chose qui nous sépare de l'amour de Dieu, quelque chose qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Dieu nous appelle là à prendre conscience de notre état et à s'approcher de lui avec humilité, avec repentance. La Bible parle de repentance. Qu'est-ce que la repentance ? La Bible dit, hein, 2 Pierre 3:9, que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est prendre conscience que finalement, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour nous approcher de Dieu. C'est prendre conscience que par nos propres forces, nous n'y arrivons pas et que nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu avec humilité. Et quand Jésus lui dit à cette femme, à la Samaritaine, que tu lui fais prendre conscience, mais la Samaritaine ne savait pas finalement à qui elle s'adressait. Elle ne connaissait pas encore Jésus. Elle ne savait pas qui était Jésus. On l'a lu dans les textes, le verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme ne comprenait pas le sens de ces mots. Elle pensait que Jésus allait lui donner de l'eau, qu'il allait puiser dans le puits. Et elle lui dit, mais comment tu vas me donner de l'eau? Tu n'as pas de puits, tu n'as pas de seau, tu n'as rien pour aller puiser. Comment tu vas me donner cette eau? Elle ne saisissait pas en fait la dimension spirituelle de l'enseignement de Jésus. Jésus, dans sa parole, lui dit, si tu réalisais vraiment qui j'étais, si tu réalisais qui je suis, eh bien, toi-même, tu me demanderais à boire. Toi-même, tu dirais, oui, moi, j'ai soif de toi, j'ai soif de te suivre. Si seulement la Samaritaine, elle avait pris conscience qu'elle était en face du Fils de Dieu, qu'elle était en face du Dieu manifesté sur terre pour nous les hommes. Jésus, comme le texte nous dit, que si tu connaissais le don de Dieu, Jésus est le don de Dieu. Il est le don de Dieu, le Fils unique venu du Père. La Bible nous dit un verset très connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu sur terre afin que nous puissions là avoir la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait ce don de son Fils unique. C'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est pas un mérite, mais c'est uniquement par grâce. Jésus-Christ est le don, et le don de Dieu pour nous sauver, pour nous sortir de notre état de péché, pour nous sortir de cette boue, pour nous purifier de notre péché. Jésus est ce que la Bible appelle, Jésus l'appelle le Messie, celui qui a été annoncé par les prophètes qu'il allait venir. La venue de Jésus sur terre, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas, il n'est pas arrivé d'un quelconque hasard, mais Dieu avait tout programmé. Avant de toute éternité, Dieu avait programmé déjà la venue de Jésus. Dieu savait que l'homme allait tomber dans le péché et que l'homme aurait besoin d'une solution. Et cette solution est Jésus-Christ. Les prophètes l'ont annoncé dans l'Ancien Testament, et ça, mais bien avant la naissance de Jésus. Même plus de 500 ans avant la naissance de Jésus, les prophètes avaient déjà annoncé sa venue. Ésaïe 9, 5, le prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5, nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Amen. Jésus dira « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est celui qui nous offre cet accès au Père. Jésus est cette eau vive qui nous purifie de notre péché, ce péché qui est là, qui finalement entache notre âme, qui nous empêche, qui nous sépare de Dieu. Jésus est celui qui nous purifie, qui nous lave, qui nous rend purs et qui nous rend propres aux yeux de Dieu, afin que nous puissions là retrouver cette relation qui a été brisée par le péché. Ésaïe 53, 5 dira, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. » C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris de notre péché, nous sommes guéris de tout ce qui salit notre âme. C'est par ces meurtrissures. C'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Il n'était pas obligé, mais par amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés, il ne le méritait pas. Il a été mis aux côtés des méchants, aux côtés des brigands. Il a été crucifié, il a été battu, insulté. On lui a craché dessus. Tout ça par amour pour nous, afin que nous puissions la retrouver, notre pureté, afin que nous puissions retrouver notre relation avec le Père. Quel amour, vraiment quel amour. On l'a chanté, que nous puissions là encore le réaliser ce soir, de l'amour de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, il y avait les sacrificateurs qui offraient donc des sacrifices d'animaux pour le pardon de leurs péchés. Et donc c'était pour leur péché à eux, mais c'était aussi pour le péché du peuple de Dieu. Et, La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et que, en fait, ces sacrifices, ils étaient nécessaires pour les réconcilier avec Dieu. Mais ces sacrifices étaient seulement provisoires. Ils étaient limités dans leur puissance. Ils étaient seulement provisoires. Ils devaient être sans cesse recommencés. Les sacrifices devaient être sans cesse recommencés. Et la Bible nous dit que Jésus, il est l'agneau de Dieu venu sur terre pour ôter le péché du monde. Jésus est venu finalement comme cet agneau sans tache, sans défaut. Lui qui ne méritait pas, finalement, il est mort pour nous. Et il accomplit une fois pour toutes le salut pour nous. Une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux aujourd'hui. Et Jésus a tout accompli. Il s'est offert lui-même. Il a offert sa propre vie. Son sang a coulé pour nous. Et c'est par son propre sang innocent que nous sommes purifiés. Jésus est cette source d'eau vive qui, comme je l'ai dit, qui nous purifie et cette source qui nous comble aussi parfaitement. Elle comble parfaitement notre âme, notre vie. Et Jésus dit que quiconque boit de cette eau a encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Sur terre, rien ne pourra combler notre vie. On sera toujours insatisfait à rechercher les plaisirs de ce monde, à rechercher, à essayer de combler notre soif spirituelle. Rien sur terre ne pourra combler cette soif si ce n'est la source d'eau vive qui est Jésus-Christ. Si... Je ne connais pas vos vies, mais si ce soir tu es peut-être en recherche de spiritualité, en recherche de quelque chose, peut-être tu as fait le tour de plusieurs religions, peut-être tu as fait un petit peu le tour de ce que le monde te propose, eh bien, peut-être que tu es encore insatisfait au fond de toi, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es encore insatisfait, eh bien, sache que Jésus-Christ, il est cette source qui te comblera de bonheur et qui remplira ce vide intérieur. Il n'y a que l'amour de Jésus-Christ qui peut remplir notre vie, qui peut remplir ce vide qui est à l'intérieur de nous. Il nous suffit simplement de nous approcher de la source, de croire en ce que Christ a accompli pour nous à la croix, de le reconnaître comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, reconnaître qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il est aujourd'hui ressuscité et qu'il vit encore aujourd'hui, qu'il est au milieu de nous. Amen. La Bible dit au Jean chapitre 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Il suffit de croire. Il nous suffit de croire, de le saisir par la foi. Par la foi, si nous venons à cette source, nous pouvons goûter à cette source d'eau vive et nous n'aurons plus jamais soif. Ce n'est pas... comme je l'ai dit tout à l'heure, par nos efforts, par nos mérites, mais c'est uniquement par grâce, la grâce de Dieu, que nous puissions la goûter encore à cette eau vive. Si peut-être vous êtes converti depuis longtemps et peut-être que vous êtes las, vous êtes fatigué, peut-être que vous avez des épreuves, des choses qui vous fatiguent spirituellement, approchez-vous de cette source vive. Approchez-vous de Jésus-Christ, il saura vous combler, il saura vous relever. Il saura vous relever, il saura vous désaltérer votre âme. Et si peut-être vous venez pour l'une des premières fois, eh bien, je vous encourage vraiment à faire cette rencontre, cette démarche. Dieu frappe à votre cœur et c'est à vous de lui ouvrir la porte. De reconnaître, oui Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne pourrais pas y arriver. Sans toi, c'est vrai, je suis qu'un pécheur et je désire goûter moi aussi à cette eau vive. Je désire là être comblé. Oui, Seigneur, change ma vie, Seigneur Jésus. Amen, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes enseignements. Oui, tu es cette source d'eau vive, Seigneur, qui change nos vies. Si nous approchons de toi, Seigneur, tu es celui qui comblera nos vies, de ton amour, de ta joie. Merci pour ton immense amour. Merci pour ce sacrifice à la croix qui nous a offert ce salut et qui nous a offert la vie éternelle, cette réconciliation avec le Père. Seigneur, merci. Je te prie, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui sont là ce soir. Seigneur, tu connais les vies de chacun, de chacune. Seigneur, tu vois toutes les situations dans lesquelles peut-être certains traversent. Seigneur, je prie que tu puisses relever, restaurer, rafraîchir celui qui est fatigué cette soirée. Seigneur, que tu puisses vraiment faire du bien à mon frère, à ma sœur. Seigneur, et Seigneur, que tu puisses là te révéler aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur Jésus, merci encore d'agir par ton esprit, Seigneur, oui. Comme cette femme samaritaine, nous voulons dire, nous avons soif de toi, Seigneur, et nous désirons que tu puisses là rafraîchir notre âme, Seigneur. Sois glorifié encore en cette soirée, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur.